At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000 of spuds.
Potatoes?
Yeah, jackets, roasties, dolphin wires. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it Mashback.
Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis,
ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'After. L'After est là comme tous les soirs de la semaine jusqu'à minuit. L'After, la seule émission radio en direct en France, à la radio 7 jours sur 7. Casting du soir, bonsoir. Bonsoir Jonathan McCarthy.
Salut les gars.
Jonathan McCarthy avec en face son acolyte du week-end, l'affaire de l'élégance. Même si je dois reconnaître qu'il s'est un peu laissé aller. Même son pull est très sympa. Non, mais des casual. On le voit sur RMC Sport News, hein, parce que l'after est à la télé sur RMC Sport News, à la radio sur RMC.
Petit pull casual, beau joueur.
Des petits artisans lillois, on met en valeur des produits locaux.
J'aime bien. Et raqué pour pouvoir porter ça, ouais. Arrête. Ne nous la fais pas.
Ludo, en service.
On en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jonathan, quand même.
Ludo Cobragnac, oui, bon anniversaire, Jonathan McCarthy. Toto, s'il te plaît, l'hymne. L'anniversaire pour Jonathan qui fête ses 45 ans déjà. Oui, il ne les fait pas.
Bien sûr, oui.
33 ans. L'âge du Christ,
ouais.
C'est ça.
Ouais, ça va. Ouais.
Est-ce que tu as commis des péchés dans ta vie déjà?
Je savais.
Avec toutes les conneries qu'il a faites, il a que 33 ans.
C'est dingue, hein. Cet homme a eu 3 vies déjà.
Ça fait peur. Hein.
L'after ce soir, un beau programme, on est ensemble jusqu'à minuit. Je vous le disais à l'instant, hashtag RMC Live, 32-16 ouvert. Rappelez-nous, supporters marseillais, supporters toulousains également. On va parler de vos clubs. Marseille, les déclarations d'André Villas-Boas qui évoque le mercato d'hiver marseillais.
Pas que ça. Hein.
Ouais, et pas que ça, justement. Ce sera un de tes avis tranchés, ton avis tranché, Jonathan. Également au programme, Antoine Cambouaré, certainement nouvel entraîneur du Toulouse. Il va succéder à Casanova, on en parle bien sûr dans un instant. Oui, tu te souffles, Jonathan.
On a le droit de faire.
Oui, allez, 1, 2, 3, messieurs. Voilà. C'est Toto, hein, avec 45 secondes de retard. Voilà, bon anniversaire, Jonathan. McCarthy, un point également sur les matchs maintenant de qualification pour l'Euro 2020. Jordan Olivier, égalisation de la Norvège face à l'Espagne.
Oh oui, ça vient de bouger. L'égalisation norvégienne sur penalty, signé Joshua King sur une sortie de Kepa un peu n'importe comment. Le point en avant, là, il ne s'est pas du tout contrôlé, le gardien espagnol. Et il a offert donc ce penalty à la Norvège, égalisation norvégienne. Donc, on est au bout du temps additionnel. Ça devrait siffler très, très rapidement. Dans l'autre match, l'Italie mène 2-0 face à la Grèce. Pareil, on est dans le temps additionnel. Là, dans 10 secondes, c'est terminé. Et donc, l'Italie qui devrait se qualifier pour cet Euro 2020. Deuxième nation à se qualifier pour l'Euro 2020 après la Belgique qui s'est qualifiée vendredi. Et c'est terminé à l'instant. Ça y est, victoire 2-0 de l'Italie face à la Grèce. L'Italie est qualifiée pour l'Euro 2020 et donc rejoint la Belgique. Ce n'est pas encore tout à fait terminé entre la Norvège et l'Espagne. Ça devrait se terminer dans très peu de temps. Un partout, on le rappelle. Et puis dans les autres rencontres, c'est terminé entre le Liechtenstein et l'Arménie. Un but partout. Et puis la Suède s'est imposée 4-0 face à Malte. Et c'est terminé à l'instant entre la Norvège et l'Espagne. Un partout donc entre les deux équipes. L'Espagne qui aurait pu se qualifier ce soir en cas de victoire et de contre-performance de la Suède. Ils auront la possibilité de se qualifier dès mardi avec leur prochain match. Ce sera face justement à la Suède.
Merci Jordan Olivier.
Excellent soir à toi.
Quoi?
Le Danemark qui bat la Suisse 1-0.
Oui.
Du coup, victoire impérative pour les Boys in Green contre la Suisse. Parce que là, l'Irlande est deuxième, 12 points. La Suisse a 2 matchs en moins. Donc, il faut absolument gagner en Suisse. Donc, c'est très, très compliqué. Et allez suivre le compte Twitter Football en Irlande pour avoir toutes les news du championnat local et de la sélection.
Merci de penser à nos éditeurs irlandais, évidemment de l'After, qui sont trois. Avec toi, ça fait deux.
Détrompe-toi.
McCarthy. Dans un instant, bien sûr, on recevra Simone Rovera pour évoquer la victoire italienne, la qualification. Enfin, l'Italie va jouer une compétition internationale.
Enfin, Simone ne va pas passer son été à se goinfrer et à revenir avec 10 kilos de plus. C'est bien.
Tout de suite, le poids, obsession. Et également, Fred Armel pour évoquer le match de l'Espagne. Hein, match nul, tenu en échec face à la Norvège. Un but partout. Mais on démarre, messieurs, par l'équipe de France de football. On le rappelle, on l'a vécu ensemble avec Ludo hier dans l'After. Victoire 1-0 des Bleus de Deschamps en Islande. La qualification, ce sera ce jour-là lundi pour les Bleus au Stade de France contre la Turquie. Une victoire, ils seront qualifiés, mais ils auront encore la Moldavie, l'Albanie. Bien sûr, pour se qualifier, tout devrait bien se passer. Attention, on disait 193, mon cher. Oui, bon, ça devrait aller. Notre question du jour sur l'équipe de France, la réussite des Bleus passe-t-elle forcément par du changement, entente par réussite? Une nouvelle victoire dans un euro pour enchaîner après le mondial, passe-t-elle par du changement? On s'est posé la question, on en a déjà parlé avec toi et Daniel hier, Ludo. Ton avis déjà, Jonathan, sur la prestation des Bleus hier soir, après on évoque la suite.
C'était cataclysmique, il n'y a rien eu, c'était un match qui était très difficile à regarder. Moi hier c'était mon anniversaire, mais donc je me suis fait le match en replay dans l'après-midi. Je vous avoue que c'était très compliqué de regarder sans appuyer sur la touche accélérée. Mais après, très franchement, j'ai lu pas mal de commentaires assez négatifs sur les Bleus. Et de toute manière, vous attendez à quoi? On s'attend à quoi de cette équipe de France? De toute manière, on s'attend juste à ce qu'elle se qualifie et à suivre le plan de jeu des chances, c'est-à-dire se mettre en mode commando à l'aube d'une compétition internationale qui sera l'Euro. Moi, l'équipe de France, j'ai du mal à la juger sur des matchs comme ça ponctuels. Alors oui, on va se rappeler que ce match-là était vraiment très très mauvais, médiocre dans le jeu, mais on va aussi ne pas oublier que lors du rassemblement d'avant, on avait tous été très enthousiastes sur la prestation de l'équipe de France, que c'est une équipe de France qui est un peu irrégulière, qui est un peu en dents de scie. Moi, pour moi, ce match qui était vraiment médiocre ne veut rien dire. J'attends de voir l'équipe de France en compétition officielle. Après, s'il y a une chose qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on a beaucoup parlé quand on a gagné la Coupe du Monde de l'équipe, d'une équipe de France qui avait un jeu qui était un peu chiant, qui correspondait pas au canon du genre. Mais moi ça me dérange pas. Moi, tant qu'une équipe joue avec de la personnalité, à l'image, je sais pas, on va prendre l'exemple le plus prégnant, mais qui est l'Atlético de Diego Simeone. Tant qu'une équipe a une personnalité, un plan de jeu, met un petit peu les ingrédients, ça me va. Là, en revanche, hier, il y avait rien. C'était un non-match. Donc voilà, c'est très vite oublié. Mais faut pas non plus tout détruire ce qui a été mis en place depuis la Coupe du Monde, parce qu'il y a quand même, dans le paquet de matchs qui a été disputé depuis, il y a quand même une poignée de bons matchs. Et on va pas oublier non plus, donc, le dernier rassemblement où on avait tous été très enthousiastes.
C'était efficace, la France va sûrement se qualifier.
Un problème pour l'Euro 2020, c'était efficace, mais c'était pas beau, on en a parlé Ludo également. Hier, on prolonge le débat ce soir parce que tu as dit quelque chose qui m'a intéressé hier. Rarement dans l'histoire du foot, une équipe qui gagne en étant moche ou semi-moche ou semi-beau n'enchaîne les victoires dans les grandes compétitions internationales.
C'est ce que je constate, hein. Si on prend l'histoire, alors après, c'est sûr que j'ai pas... la science du football des années 30, 50, 60, mais en tout cas sur ma génération, ce que j'ai pu constater, c'est que une équipe qui a sur une compétition décide de défendre becs et ongles en jouant en contre-attaque ou en jouant un football qui est pas un football léché ou en tout cas qui a une connotation un peu défensive. C'est des exploits à chaque fois, mais ça se renouvelle pas dans la durée.
L'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde 98, est-ce que c'était une équipe de France qui jouait très bien au football?
Bah, je trouve non. que ça jouait. Non. Pas très bien, mais ça jouait.
Non. Est-ce que l'équipe de France qui gagne l'Euro 2000 est une équipe de France qui joue bien? Oui, mieux. Mais est-ce que c'était ultra
bien? Il y a une évolution dans le jeu.
Il y avait une évolution. Après, moi, là où je veux revenir, et je pense que c'est un point de débat qui est essentiel, t'as raison Ludo, si tu joues comme le Portugal ou la Grèce, tu peux pas faire le doublé. Mais je trouve qu'on a un miroir déformant, c'est peut-être parce qu'on voit beaucoup trop de matchs, parce que peut-être qu'on analyse trop les choses, mais je pense pas que l'équipe de France a joué d'une manière ultra défensive à la Coupe du Monde.
Non, pas ultra.
Je sais pas que l'équipe de France a mis plus. L'équipe de France, juste pour terminer, l'équipe de France, le style équipe de France de la Coupe du Monde, c'est une équipe qui va très vite dans les phases de transition. C'est une équipe qui a beaucoup de verticalité, qui a beaucoup de vitesse et qui sur la première relance déséquilibre, est capable de déséquilibrer n'importe quel bloc. C'est pas le bus portugais ou grec.
Sauf que vous êtes tous calés sur le match de l'Argentine, qui a été le seul match où on a joué en transition parce qu'on a souffert contre une équipe d'Argentine qui était presque moribonde à ce moment-là.
C'était une pâle argentine quand même, c'était une pâle argentine.
Oui, c'est ce que je te dis.
Elle était nulle. Moi, j'ai fait le match, elle était nulle.
C'est pas une référence, ce match.
On a joué en transition sur ce match-là, ce qui a donné un match spectaculaire. Contre l'Uruguay, ouais.
Oui, quand même. Oui. Contre la Croatie aussi.
Mais si tu prends les matchs importants, on a énormément souffert.
Et en Croatie, contre la Croatie, Ludo.
La Belgique, pour moi, c'est quasi un miracle qu'on gagne ce match-là.
C'est le seul, les autres.
Franchement, la Croatie.
Ah non.
J'ai senti à la fin du match, je me sentais presque un peu gêné, ou en tout cas à la fin de la première mi-temps, je me sentais presque gêné.
Est-ce que le score est gonflé? Oui. Mais on a quand même bien joué sur ce match-là.
Ben, je trouve qu'on a souvent été délivré par des joueurs qui ont une capacité à être la patte de Griezmann et les accélérations fulgurantes d'Mbappé. On a surtout été sauvé par ça. Or, quand je vois actuellement l'état physique de Griezmann, notre attaquant principal qui a joué 17 minutes depuis le dernier rassemblement. Quand je vois Coman qui est Dembélé qui sont souvent blessés parce que fragiles. Quand je vois qu'on joue avec un milieu de terrain et Matuidi toujours à gauche avec Lucadine derrière lui, je me dis, mais est-ce qu'on peut envisager, quand on regarde ce qui se passe un peu ailleurs, quand on regarde l'Italie, quand on regarde l'Angleterre, quand on regarde la Hollande, quand on regarde tous ces pays, est-ce qu'on peut se suffire de ça? Est-ce que ça suffira pour déstabiliser ces équipes-là?
L'Italie et l'Espagne qu'on a vu ce soir préparent déjà l'Euro et font les tests.
Je dis pas que j'ai raison forcément, mais j'ai l'intime conviction que tu as plus de chances de gagner face à ces équipes-là en jouant un peu mieux.
Alors, deux choses. La première, c'est que, évidemment, pour moi, ce n'est pas l'idéal. Hein,
Nicolas, 32-16 nous attend. Vas-y, Jonathan.
C'est pas l'idéal ce que fait Deschamps. J'aimerais qu'on voit autre chose. J'aimerais que l'équipe de France ait un style de jeu plus léché, que l'équipe de France joue mieux, que voilà, il y a un autre plan de jeu, ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose, c'est que je pense qu'il peut sauver, c'est qu'il va sauver cette équipe de France, c'est la qualité individuelle des joueurs. On a un réservoir de joueurs, notamment offensifs, qui est extrêmement riche, et à mon avis, c'est ça qui sauve Deschamps et qui lui permet de réussir dans ce plan de jeu-là. Je veux bien, vous me parlez de l'Espagne ou de l'Italie. Il n'y a pas de problème, c'est des collectifs qui sont peut-être un petit peu plus huilés. Mais est-ce qu'ils ont la qualité individuelle devant qu'on a nous?
Encore faut-il qu'ils soient en forme au même moment, tous ensemble.
Je fais confiance à Didier Deschamps sur une chose, c'est arriver à amener son groupe dans les meilleures conditions avant une grande compétition. S'il y a une chose sur laquelle on peut être sûr, c'est ça. Après, malheureusement, est-ce que c'est bien de se réfugier derrière les qualités individuelles de nos joueurs qui sont très riches? Non, on aimerait autre chose, mais en tout cas, on les a.
Nicolas, supporter du PSG de l'équipe de France, t'es avec nous. Salut Nicolas.
Bonsoir monsieur.
Et bienvenue dans l'after, heureux de t'accueillir. Est-ce que tu penses que toi, Deschamps, peut-être une fois la qualification dans la poche pour l'Euro 2020, va essayer de modifier quelque chose, son système peut-être, des joueurs?
Non. Alors, en préambule, je trouve qu'on est vraiment sévère avec cette équipe de France. Mm-hmm. On est la meilleure équipe du monde depuis 4 ans, on fait finaliste de l'Euro, on est champion du monde.
Je sais pas si on est la meilleure équipe du monde, en tout cas on est champion du monde.
Enfin, on est champion du monde, on est champion d'Europe. Sur les 4 dernières années, on fait 2 finales des plus grosses compétitions internationales. On est la deuxième équipe à avoir marqué le plus de buts à partir des 8e de finale de la Coupe du Monde. Enfin, on oublie quand même de le dire. Et quand j'entends tout le monde parler, j'ai l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors, je vous entends
dire
l'Italie, des Pays-Bas, l'Angleterre. Hier, l'Angleterre, ils perdent à la République tchèque dans un match catastrophique. Les Pays-Bas, ils gagnent à un quart d'heure de la fin. Enfin, ils reviennent au score. C'était vraiment pas beau. Et je pense qu'en fait, il y a 10-15 ans en arrière, j'ai l'impression que le jeu collectif des sélections nationales était beaucoup plus huilé. Et je
dirais peut-être t'as raison, là, d'accord.
Plus beau que ce qu'on a maintenant. Et je pense que nous, souvent, quand on traite les équipes nationales, on fait souvent la comparaison avec les équipes de club. On dit, mais pourquoi ces joueurs...
T'as totalement raison, Nicolas. Quand tu...
Allô? Je disais que finalement, on est tellement habitué à avoir des collectifs vraiment forts. On va prendre Barcelone, City, le PSG, même le Real il y a 2-3 ans, que quand on compare à la sélection nationale, on a même l'impression que ça va moins vite. Et même les finales, que ce soit finale, quart de finale, ou comparé à la Ligue des Champions, ce qu'on voit de les compétitions internationales, on est en retrait. Et je pense que notre jugement est faussé. Et que vraiment, non seulement Didier Deschamps ne changera rien, mais il a raison sur un plan de vue résultat de rien changer. Et s'il avait dû le faire, je pense que par exemple en attaque, il aurait peut-être appelé la casette, parce qu'il mérite sur un plan purement sportif il ne le fera pas. Et quand on voit encore l'interview qu'il a fait avec Benzema, c'est quelqu'un de têtu, voire obtus, et il ne changera strictement rien. Voilà.
Alors, très bien, vas-y Ludo.
Je peux aller dans le sens de Nicolas sur le fait que on a l'impression quand même que le niveau des équipes nationales a légèrement baissé. Faut dire quand même que toutes ces équipes nationales sont entre deux courants, on va dire. L'Angleterre se rajeunit considérablement, pareil pour la Hollande, pareil chez nous, pareil, tu vois, il y a comme un changement de génération, donc tu sens que l'impact des leaders est un peu moins présent, c'est des joueurs qui commencent à s'installer, donc ils ont pas encore la plénitude de leur talent. Après, si, quand je compare pas par rapport au match qu'on a vu de l'Angleterre qui s'est vautré contre la République tchèque ou contre l'Espagne qui fait match nul,
qui fait
un match très moyen. Je regarde un peu plus sur la durée et sur le début de ces éliminatoires. Et la chose que je constate et qui est vraiment à l'opposé de nous, c'est sur la constitution du milieu de terrain de ces équipes-là. Ouais. C'est-à-dire que tu vois même l'Italie ce soir, qui fait une première mi-temps qui est à peu près la même que la nôtre hier, contre une équipe grecque très regroupée, très difficile à trouver des solutions, mais t'as un milieu de terrain créateur, qui fait qu'à un moment donné, il y a la passe, il y a le décalage, il y a parce que t'as Verratti qui a usé le milieu de terrain grec avec alors même s'il a été un peu gourmand par moment, il a perdu un ballon qui aurait pu coûter un but, mais à force d'user cette défense, à casser les lignes, à jouer tout ça. Chez nous, en fait, De Jong aux Pays-Bas avec d'autres, Busquets, Saúl, tu vois, c'est des milieux de terrain qui sont techniques. Or, nous, dans la constitution de notre milieu de terrain, on a certes des joueurs qui sont valeureux, qui sont capables aussi de casser des lignes. Hier, si t'as pas de Griezmann avec l'entrée de Ben Yedder pour faire un peu de jeu entre les lignes et puis du jeu en mouvement à deux, tu vois, il y a pas tout ça. Et je trouve
qu'on a d'autres qualités.
Mais je pense qu'on a plus l'effet de surprise.
On aura plus
l'effet de surprise de la Coupe du Monde. Et je pense qu'on aura les pires difficultés à mettre à déstabiliser ces équipes-là si on n'arrive pas à développer autre chose que ce que
moi je t'annonce, hein, là il y a France-Espagne, ouais. France-Italie, la France gagne, hein, la France est là, on est largement au-dessus. Je pense que Nicolas a raison sur une chose, c'est qu'on a tendance à être très sévère avec cette équipe parce que par son style qui n'est pas chatoyant, qui ne donne pas envie. Mais attention, quand je nous vois jouer, alors on va mettre le match d'hier un petit peu à part.
On n'a pas joué les Hollandais il n'y a pas très longtemps.
La Turquie aussi, ça peut être un bon exemple. Contre la Turquie, on perd 2-0, on propose rien. Mais je pense que cette équipe-là, remobilisée avec tous les joueurs qui sont en forme, je suis d'accord. C'est pas beau, c'est pas le plan de jeu est rudimentaire, mais on est dangereux contre n'importe quelle équipe.
Jonathan, ce qui m'inquiète aujourd'hui, alors ça sera peut-être pas le cas l'Euro 2020, mais c'est que tous tes ténors, toutes tes têtes d'affiche ne sont pas en forme. Manchester est dans une situation compliquée et ça risque pas de s'arranger, peut-être pas. Griezmann est dans une situation compliquée à Barcelone, ça s'arrangera peut-être pas non plus. Dembélé se baisse beaucoup trop souvent. Coman, on est tout le temps sur la corde raide avec lui, Giroud, on n'est pas sûr qu'il va jouer.
Mais t'as raison. Mais en fait, t'as totalement raison. Mais c'est le revers de la médaille. On n'a pas de collectif, mais on a des individualités qui sont très fortes et qui peuvent se mettre en mode commando. Je vous dis encore une fois, je me fais pas l'avocat du diable. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est ce que je voudrais pour l'équipe de France. Je dis pas que c'est l'optimum. Mais en tout cas, c'est comme ça et faut s'y faire parce qu'il va pas changer.
C'est comme avec Giroud. Moi, j'aime beaucoup Giroud. Est-ce que je suis content que Giroud marque hier? Giroud mérite tout ce qui lui arrive? Bien sûr que oui, il mérite tout ce qui lui arrive. C'est un mec en or, c'est un mec valeureux, c'est un mec tout ce qu'on veut. Mais est-ce que un joueur qui joue aussi peu?
Ouais, on l'a déjà fait. Oui, t'as
raison. Non, mais tu vois, il n'y a rien dans le football. À ton avis, pourquoi Cristiano, Messi, ils veulent jouer tous les 3 jours, tout le temps?
Rester en forme.
Pour le rythme. Il n'y a que le rythme de la compétition qui te permet d'être toujours au top niveau. Les entraînements, ça
sauf qu'il n'a pas été mauvais Giroud hier.
Il a fait du Giroud, il a fait de la remise, il a fait du pivot. Moi, je ne l'ai pas trouvé bon hier.
D'accord.
Tu as senti que dans le rythme, dans ses contrôles, dans ses prises de balles, il était moins à l'aise que d'habitude.
Il y a une chose que je voudrais dire pour
très vite, c'est Nicolas également.
C'est qu'en fait, pour moi, Deschamps, c'est un feignant, c'est un paresseux. Parce que la frustration qu'on peut nourrir tous, elle vient du fait qu'on a un réservoir de talent qui est quand même assez important, notamment offensif. Et donc lui, en fait, il prend le plan de jeu facile. qui est de dire bah, je vais miser sur les qualités individuelles de mes joueurs,
c'est pas si facile,
alors qu'ils pourraient faire des choses quand même un petit peu plus élaborées avec le matos qu'il a à sa disposition.
Quand tu vois les joueurs offensifs qu'on a, et quand tu vois le côté gauche qui est aligné contre l'Islande alors qu'on est champion du monde, comme si on avait peur du côté droit islandais, comme s'ils allaient nous.
On les connaît pas, s'il faut, ils sont très forts.
Nicolas, t'as un mot à ajouter ou pas? Tu nous trouves trop dur, j'imagine.
J'aimerais rajouter quand même quelque chose, c'est qu'il y a un phénomène qu'on voit de plus en plus, c'est le phénomène de blessures en sélection et les problématiques que ça entraîne dans le club. Et notamment à ces périodes de l'année, alors je ne parle pas des sponsors ou des renouvellements de contrats, c'est compliqué pour les trucs, mais on le voit, tous les joueurs qui ont été blessés à la sélection, les problématiques qu'il y a eu en club, et je me demande au regard des contrats, des salaires et des proportions que ça prend vraiment sur ces 2-3 dernières années, si on n'est pas en train de vivre un peu un phénomène qu'on voit un peu au basket peut-être, mais d'avoir des joueurs qui viennent parfois un peu en reculant en sélection.
C'est possible.
Et le niveau de jeu en partie, notamment durant ces périodes, et quand on sait qu'il y a de grosses échéances, notamment Ligue des Champions qui arrivent pour certains clubs ou même en championnat, c'est quelque chose qu'on parle pas assez, je trouve.
Mais ouais, t'as raison.
Merci Nicolas. Merci Nicolas.
Mettre le PSG au niveau de quand tu parles des équipes qui ont un jeu léché, mettre le PSG, bon, t'aurais pu t'abstenir. Mais t'étais brillant sinon.
Il y a des gamins qui ont 9 ans qui n'ont pas vu une victoire de l'OM face à Paris.
Allez, rendez-vous le 27, Nicolas.
Ça va lui faire du bien.
Le 27.
Allez, t'annonces un rendez-vous
triplé d'Hiroki Sakai et doublé de Pipa Benedetto, une manita.
T'as pas un accent du sud, Nicolas?
Eh, si, mais moi j'ai grandi avec Paris.
Voilà.
La Coupe d'Europe, je suis fin des années 80.
Foutique.
Et j'ai vécu ma première Coupe d'Europe en 96 avec Paris, donc.
Nicolas,
voilà. Merci.
Nicolas, triplé d'Hiroki, doublé de Benedetto, la Manitoba.
Ouais, d'accord, c'est du grand n'importe quoi. Pour rêver, on imagine n'importe quoi.
Centre, d'abord.
Merci Nicolas, excellente soirée à toi.
Salut Nicolas.
Tu veux dans l'after, bien sûr. Ciao. Tiens, cette info à confirmer encore, en tout cas. On va remanger du Deschamps, a priori, messieurs. Si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas le style, tant pis, parce que s'il y a qualification pour l'Euro 2020, Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, proposera une qualification automatique à Didier Deschamps jusqu'en décembre 2022.
C'est logique.
Donc, normal. La Coupe du Monde au Qatar.
Normal, bah oui.
Ça ferait 8 ans de mandat pour Didier Deschamps.
Donc, c'est logique.
2013, 2022.
Je vois que le chrono arrive au bout, mais est-ce qu'on va en reparler de ça?
On en parle dans un instant, je veux votre avis là-dessus. On revient dans un instant, bien sûr, à la suite de l'After Foot. On est ensemble jusqu'à minuit. Simone Rovera qui revient dans le monde du football, enfin, avec la qualification de l'Italie, sera avec nous ce soir dans l'After. Fred Hermel aussi pour débriefer le pauvre match de l'équipe d'Espagne, toujours en échec en Norvège, un but partout. Ils n'ont pas été très bons.
C'est sûrement grandiose, en fait.
Hein?
Non, rien.
Allez, on revient tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Et oui, l'After est là, comme tous les soirs, jusqu'à minuit, avec ce soir le casting du week-end, l'élégance de Jonathan McCarthy et l'élégance de Ludovic Opoku.
Et l'élégance de Nico Jamain aussi.
Ouais, que vous voyez sur RMC Sport News, un t-shirt veste, c'est pas non plus le summum de l'élégance.
Ça fait
il a un jogging en dessous.
Ça fait très, très Paris, très but de Chaumont, très Paris 19, très.
Tu sais que l'After n'est pas une émission locale.
Bonjour Bohème, très.
Non, pas du tout.
C'est aussi.
La suite de l'After, bien sûr, au programme ce soir, Simone Rovera pour évoquer la qualification de l'Italie pour l'Euro 2020. Simone est donc de retour sur la planète de football après avoir disparu il y a quasiment 3 ans.
Est-ce qu'il a manqué la
Fred Hermel attendra pour la qualification de l'Espagne, match nul face à la Norvège et également au programme ce soir, je vous le disais, les déclarations d'André Villas-Boas. Mais on prolonge rapidement, messieurs, le sujet Deschamps. Deschamps va, selon toute vraisemblance, prolonger son contrat jusqu'en 2022, jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar.
Donc quoi, s'il se qualifie
pour l'Euro?
Oui, bon,
donc il n'y a pas d'option.
Qu'est-ce qu'elle dit pour l'Euro?
Il n'y a pas d'option de résultat à l'Euro. Ouais.
S'il se qualifie pour l'Euro 2020,
oui.
C'est le cas.
Mais il n'y a pas un quart, une demi.
Noël Le Graët propose une prolongation qui peut refuser encore. Hein. Je ne pense pas.
En fait, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que oui, tu l'as dit, ça ferait 8 ans de mandat de Didier Deschamps. Ce qui en soi...
Il est arrivé après l'Euro 2012, sous Laurent Blanc, ça fera même 9 ans.
9 ans, ouais. Ça, en soi, ça me dérange pas tellement, parce que c'est bien, je trouve, qu'une sélection travaille dans la continuité. Mais le problème, c'est que lui, j'ai l'impression que, voilà, quand tu es en poste aussi longtemps à la tête d'une sélection, tu dois faire des choses à côté. Je pense, par exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est Oscar Tabarez, qui lui, ça fait plus de 10 ans qu'il est à la sélection du Uruguay. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a, c'est pas juste occupé de l'équipe première, il s'est occupé de restructurer l'ensemble du football uruguayen, qui fait que ce tout petit pays arrive à produire des joueurs fabuleux d'année en année. Et moi, c'est ça que je lui reproche à Didier Deschamps, c'est que je parlais de sa feignantise tactique, parce qu'il se repose sur les qualités individuelles de ses joueurs. mais je pense aussi qu'il y a une sorte de feignantise, une sorte de feignantise, parce que je pense qu'il devrait s'investir un petit peu plus dans la restructuration du football français. Tout n'est pas rose dans la formation de nos jeunes. Et je pense qu'un sélectionneur, juste pour finir, un sélectionneur qui en poste aussi longtemps doit s'investir dans d'autres, dans des domaines qui sont annexes.
C'est commencer à la fédé, chacun à son domaine de compétence, et tu vas pas marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. Tu sais comment ça fonctionne.
Sauf qu'il a l'aura du champion du monde. Il pourrait aussi essayer, tu vois, de dépasser sa fonction et de faire progresser l'ensemble du football français.
La France, c'est pas l'Uruguay.
Juste l'intérêt d'avoir un sélectionneur aussi longtemps à la tête d'une sélection, c'est qu'il puisse chapeauter un petit peu les équipes de jeunes aussi pour s'assurer du vivier dont il va pouvoir disposer les années qui suivent. Et lui ne le fait pas. Et ça, mais je le déplore. Et j'espère, même si c'est un vœu pieux, j'aimerais que ça change.
Tu crois qu'il est pas en contact constant avec Ripoll et compagnie? Bien évidemment que si.
On le voit, ça se voit pas.
Sélectionneur des espoirs, Sylvain Ripoll.
Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, peut-être juste en contact.
Allez messieurs, on avance, 23h02, c'est l'after avec Jonathan Valcardi, Ludovico Bragnac. On voulait parler avec toi, Jonathan, de l'Olympique de Marseille. Non, tu voulais parler de l'Olympique de Marseille. Jingle, Jonathan Valcardi.
T'as cet esprit de revanche, tu sais, par rapport à l'aventure qui s'était mal passée auparavant. Ça finit en queue de boudin.
Ah, nouveau jingle, Jonathan Valcardi. Oui, il a dit la queue de boudin.
Ouais. Écoute, ça arrive.
Ça arrive.
Comme quoi,
ça fait plaisir à Adrien Aigouin.
Même les polytechniciens, tu vois, ils font des conneries. Hein, t'as vu?
Précision, Jonathan Valcardi n'a pas fait polytechnique. Non. Hein, soyons quand même extrêmement clair et transparent.
Une autre grande
école. Mais quand même, il a fait des bonnes écoles. Bon. Jonathan, avant de te lancer, je rappelle, déclaration hier soir sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'André Villas-Boas. Tu voulais le rappeler? Je le rappelle, notamment à la question, l'OM va-t-il recruter cet hiver? Je ne pense pas. Des recrues en janvier, a priori non, mais il n'y a que le propriétaire qui peut répondre à cette question. Mais selon mes informations, je ne pense pas. Sur son avenir, il l'a dit, qu'il sera probablement entraîneur pendant 15 ans, donc il lui reste 5 ans avant de retourner à Porto pour devenir un jour, sur le club de son cœur, un dirigeant du FC Porto.
Il a surtout dit que l'Olympique de Marseille était probablement son dernier club.
Exactement.
Donc en fait, mon avis, c'est de dire que André Villas-Boas, c'est le reflet de la léthargie de ce projet McCourt. Alors donc oui, je voulais rebondir sur l'interview qu'il a accordée hier aux excellentes équipes de France 3 PACA. Et donc ouais, la première déclat que tu as ressorti.
Il lance ça, il flatte tout le monde.
Ben non, c'est des copains.
Il a des potes.
Ah, c'est des copains.
La première déclat que tu as fait, c'est que tu as ressorti, c'est oui, sur le manque d'argent, sur le fait que Marseille va pas recruter. Mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment une information? Non, ça, on le savait. La vraie information, c'est qu'André Villas-Boas, 41 berges, qu'ont probablement arrêté sa carrière de coach une petite dizaine d'années après l'avoir commencé, et que donc l'Olympique de Marseille, c'est probablement son dernier challenge. Ben moi, cette déclaration, elle me dérange grandement. AVB, donc 41 ans, qu'on l'on annonçait hein, après son passage à Porto comme la figure de proue d'une nouvelle génération de coach star, il veut donc raccrocher après un dernier challenge dans un club aux moyens restreints, parce que voilà, il faut se rappeler, quand il signe à l'Olympique de Marseille, il le dit, on m'a bien annoncé qu'il y aurait pas d'argent, qu'il allait falloir faire avec des bouts de ficelle. Donc ça m'ennuie, parce que très franchement, quand tu lis l'interview, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, moi, mon ambition, c'est de faire gagner à ce club-là une coupe nationale, une pauvre coupe de la Ligue. Bah, pour moi, cela, ça traduit simplement son intérêt plus que limité pour sa profession d'entraîneur.
Mais Jonathan,
et par conséquent, pour l'Olympique de Marseille.
Il est juste réaliste.
Laisse-moi terminer, tu vas comprendre pourquoi ça m'énerve. Alors, peu importe que la direction actuelle, à sa tête, ça ressemble plus à une bande d'amateurs façon les bronzés font du ski qu'à un vrai président et un vrai directoire.
Ce qui est bien.
Peu importe le fait que, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe, de l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille qui n'est pas du tout le niveau de porter le maillot ciel et blanc. Mais Marseille, c'est quand même un club mythique. Et moi, ce discours d'André Villas-Boas, qui est fataliste, à la limite du je m'en foutisme, est teinté d'une sorte d'ataraxie passive face à la situation dramatique ça tranche totalement avec la passion à la grinta de ceux qui lui ont succédé. Alors sans jouer au vieux con, c'est mon anniversaire, mais je vais pas jouer au vieux qui a tout vu, mais on va juste remonter pas si loin que ça. Éric Guéretz et Marcelo Bielsa, eux ils dégageaient une vraie passion, comme si l'Olympique de Marseille c'était une fin en soi d'être à l'OM, comme si c'était un petit peu un accomplissement. Même sans parler de ces deux noms mythiques, on va juste reprendre le discours d'Eli Bop. Eli Bop, c'est un entraîneur du cru qui sent bon l'hexagone, qui sent bon le terroir. Pour lui entraîner l'OM, c'était une fin en soi. Lui, il faisait preuve d'ambition. Lui, avec une situation qui était similaire à celle d'André Villas-Boas, à savoir pas d'argent, un mercato restreint. Lui, il annonçait, je veux me qualifier pour la Ligue des Champions, je veux jouer le titre jusqu'au bout, je veux gagner des trophées avec l'OM. Même lui avait parlé d'ambition. Donc voilà, ça me dérange beaucoup.
Et c'est notre époque, vas-y, fini.
Et juste pour revenir sur Bielsa et sur Guéretz, par exemple, on les a jamais entendus dire que leur rêve, c'était de devenir président des Newell's ou du Standard de Liège. Donc ce qui me gêne, c'est cette attitude qu'a André Villas-Boas d'être venu à l'OM, parce que, de cette manière-là. Parce qu'il faut bien l'avouer, en fait, limite AVB. Après ses échecs à Tottenham et à Chelsea, bon ben il faisait un petit peu has-been, hein, il avait plus vraiment la cote. Il y a plus vraiment des gros clubs qui s'intéressaient à lui. Alors c'était peut-être conjoncturel, on sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, pas il y a pas grand monde qui tape à sa porte pour lui proposer un contrat. Donc ce qui me gêne c'est cette attitude de venir de manquer cruellement d'ambition, de faire preuve de ce fatalisme décourageant du on n'a pas d'argent, on va essayer de gagner une coupe, parce que même si c'est teinté d'une sorte d'hypocrisie de façade, parce que quand il dit oui, je veux quand même faire gagner ce club-là, moi ce qui me gêne c'est que mec, t'es à l'Olympique de Marseille, c'est un club qui est mythique, même si en ce moment ça va pas, c'est un club qui est mythique. Alors surtout, l'insulte suprême, c'est à la fin de son interview quand il dit moi mon rêve, c'est d'entraîner Porto. Enfin, c'est d'être président de Porto. Je veux pas être redondant, mais ton rêve, ça devrait être d'entraîner l'OM. Alors ouais, je suis peut-être un petit peu dur avec lui, mais force est de constater qu'à part avoir fait venir un attaquant que tous les suiveurs du championnat argentin savaient excellent, qu'à part avoir fait jouer l'équipe correctement sur 2-3 matchs et qu'à part être assez beau gosse et à maîtriser la langue française assez rapidement, en regardant les journalistes dans les yeux, faut pas oublier, ça c'est quand même important pour le microcosme journalistique français. Ben pour l'instant, André Villas-Boas, il doit beaucoup mieux faire, parce que s'il veut pas que son dernier club, son dernier challenge, ce soit un nouvel échec dans sa courte et au final pas si brillante carrière d'entraîneur, il va falloir faire autre chose. Alors pour conclure, de toute façon, là où je voulais en venir, c'est qu'on a que ce qu'on mérite quand on est sport, quand on est l'Olympique de Marseille. Ce projet McCourt qui tourne au drame et qui commence furieusement à ressembler au ridicule de l'ère colonie capitale au Paris Saint-Germain, présidé par un homme qui n'aurait jamais dû être président de l'Olympique de Marseille et qui n'a jamais pris la mesure de la grandeur historique de l'OM, et ben voilà, t'as ce que tu mérites. T'as un entraîneur qui est là comme ça, qui a pas grand intérêt à l'Olympique de Marseille malgré ce qu'il dit, et qui au final a un autre rêve, c'est d'aller vite retourner à Porto pour présider le FC Porto. Donc très bien, mais c'est ultra décevant.
Voilà la vie tranchée de Jonathan, supporter Marseille, à plus de 32-16, hein. Mathieu est déjà là, Ludo.
Moi, je suis en total désaccord pour une fois avec Jonathan, dans le sens où le métier d'entraîneur, certes, c'est un jeune entraîneur, tu connais pas son environnement familial, ce qu'il attend de la vie. C'est pas parce que tu décides à un moment donné de dire voilà je vais faire entraîneur sur tant d'années que forcément tu es il a vécu énormément d'expérience ce garçon, la plupart négatives ces dernières années. Être entraîneur ça use. Moi j'en ai j'en ai vu des entraîneurs complètement au bout du rouleau, déprimés, dépressifs. C'est un métier exécrable, être entraîneur. C'est toi le premier visé quand ça va mal, c'est toi sur qui on tire quand ça va pas bien. C'est très difficile d'être, et peut-être qu'il est usé de tout ça. Moi je trouve que tu devrais être flatté justement qu'ils disent que l'Olympique de Marseille c'est son dernier challenge. Moi si je devais jouer un dernier challenge,
mais c'est parce qu'il est réaliste, il a pas le niveau d'aller ailleurs.
Mais je me dis mais peut-être, mais
il le sait, il s'en est rendu compte.
Mais voilà, il est là chez vous. Tu dis qu'il manque d'ambition, il a quand même dit au début d'année, malgré le fait qu'il savait qu'il allait avoir zéro effectif et zéro transfert, il a dit quand même qu'il visait le top 3, il me semble.
Il a jamais dit. Il a jamais dit.
Bah dans les interviews de début de saison, je vais te les ressortir. Dans les interviews de début de saison, il a dit qu'il viserait, qu'il venait, qu'il viserait top 3. Nico,
il l'a dit. Pas forcément cette saison, mais rapidement.
Il a jamais dit que cette saison il visait le top 3, jamais.
Il est venu avec un discours plein d'ambition. Maintenant, il a été rattrapé par le président.
Mais non, il le savait. Quand il le signe, il le dit. Il dit j'ai signé, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Et quand, voilà, il le sait.
Et quand il te dit, nous, gagner une coupe, c'est déjà bien. Mais qu'est-ce que vous voulez gagner d'autre? Tu penses que tu peux gagner le championnat?
Moi, ce que je veux.
Tu penses que tu vas gagner encore?
Non, mais alors là, ça m'énerve ce que tu dis. Non, c'est l'Olympique de Marseille. Moi, je veux des mecs comme Marcelo Bielsa qui sont prêts à se couper des doigts pour gagner contre le Paris Saint-Germain. Je veux que des mecs comme Eric Guéret qui entraînent alors qu'ils sont gravement malades et qui ont du mal à se lever du lit, qui viennent entraîner l'OM. Oh, c'est l'OM. T'entraînes pas une autre équipe, je suis désolé.
Qu'il
arrive là comme ça, hein, parce qu'il est beau gosse, qu'il parle bien et tout, ça suffit maintenant. Moi, ce que je veux, c'est un mec qui soit motivé à 100%, qui ait conscience qu'il entraîne une grande équipe et un club mythique, et qui ne nous sorte pas que son rêve, c'est de présider Porto. C'est quoi ça? Encore, il gagnerait tous ses matchs. Mais là, l'équipe, elle joue d'une manière médiocre depuis le début de la saison. Il y a eu deux bons matchs.
Ouais, c'est pas que de sa faute, mais il lui manque 3-4 éléments.
Mais
qui te dit qu'il met pas du cœur à l'ouvrage dans ce qu'il fait? Moi, je le trouve totalement investi. Et puis, jusqu'à preuve du contraire.
Il y a beaucoup d'esbrouf.
Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, Marcelo Bielsa qu'il est, et tout, moi, je l'adore, cet entraîneur-là, mais il a pas gagné non plus.
Mais il a fait vibrer le stade. Il a rendu la ville folle.
Je trouve qu'après l'empathie de la saison dernière, je trouve qu'il y a un regain d'espoir depuis que Villas-Boas est là.
Oh non.
Moi,
le 32-16 explose, évidemment. C'est un sujet sensible. C'est l'Olympique de Marseille, bien sûr. Ce sont les déclarations d'André Villas-Boas.
Je suis pas supporter de l'OM pour voir que les gens retrouvent un peu espoir.
T'es passé d'une situation horrible à un truc qui est à peu près un peu correct.
C'est pas William est avec nous, il vient d'appeler au 32-16 en écoutant la vie tranchée de Jonathan. Salut William. Oh,
salut Nicolas, salut à Jonathan et à Ludovic.
Et bienvenue dans l'after.
Salut, salut William.
Bon, je réagissais oui par rapport aux propos de Jonathan sur AVB. Je le trouvais un peu dur et puis après c'est vrai que c'est assez facile de critiquer sur le micro, mais lui je peux te dire que Jonathan c'est un coach qui est très méthodique. Quand je t'entendais parler par rapport à ses échecs, notamment à Tottenham, c'est très relatif parce qu'à Tottenham la première saison il finit cinquième avec le record de points en première ligue de Tottenham. Et en deuxième partie de saison, il se fait virer au mois de janvier parce que bon, c'était à peu près, il y avait pas une grosse évolution. À Chelsea, ouais, il s'était surtout mis à dos Lampard parce que voilà, il voulait un peu changer la chose. Enfin bref, par rapport à l'OM, je pense pas qu'il s'en fout de l'OM, tu vois. Il a vraiment dit un jour, moi je me vois pas longtemps en tant qu'entraîneur. Et son club de cœur, c'est un fanat de Porto, ça je peux te le dire.
Ouais, je sais, ouais.
Les supporters du club, c'est Porto, tu vois. Ouais.
Aujourd'hui, je suis très très libre. Je regarde le foot. Ludo, c'est un super chroniqueur et ça se voit. Enfin, il est génialissime.
C'est gentil.
Toujours très très posé, très. Enfin,
voilà. On aime ça. C'est complémentaire. Le feu, la glace.
C'est pour ça que je voulais m'attarder sur ça. Et je pense pas, tu vois, pour finir, je pense pas qu'il s'en foute de l'OM, tu vois. C'est vraiment dans son projet. Il pense que l'OM sera son dernier club, mais il va faire de son mieux, je peux te dire. C'est un coach qui va faire de son mieux.
Pour moi, il y a beaucoup d'esbrouf.
Il est, tu vois, enfin, le mec à 33 ans, il gagne une Ligue Europa avec Porto. Certes, il y avait des Hulk, il y avait Falcao.
Il y avait la tierce propriété aussi, qui a beaucoup aidé.
Voilà, c'est ça.
Non, mais faut le dire, William, c'est vrai.
Moi, je pense pas qu'il chie sur l'OM, pour être sincère.
J'ai pas dit qu'il chiait sur l'OM. Ce que je dis, c'est que ce qui m'agace, c'est que.
Il n'incarne pas la passion de l'OM, en tout cas. Il n'est pas à la hauteur de la passion marseillaise.
Exactement.
Tu sais, le seul truc, moi, qui me dérange, c'est qu'il s'épanche un peu trop sur les sujets hors, tu vois, sur le mercato, sur. Tu vois, ça me dérange. C'est pas à lui de dire ça. Lui, son domaine, c'est le sportif. Aller dire que l'OM a pas d'argent continuellement pour recruter.
Il se protège un peu.
Non, mais c'est à son président d'y aller. Oh, c'est à son président d'y aller. Oui. Jacques-Henri Hérault, il doit sortir du bois.
Il y a un président à l'OM.
S'il est parlé pour la partenariat.
Oui, oui.
Il y a un président à l'OM. Il y a un président.
Non, mais je veux dire.
C'est le type à lunettes, là. C'est le président de l'OM, vous êtes sûr?
Vas-y.
On est dans la quatrième dimension, là.
William,
ouais,
vas-y.
Ouais, mais je me l'attends. T'as vu le président. Enfin, t'appelles ça un président. Enfin, quelqu'un qui. Enfin, je parle de. Monsieur Hérault.
Il est président de l'OM, lui, t'es sûr?
Voilà, donc il était débarqué là, le mec, enfin, tu vois tout de suite, enfin, rien que c'est, enfin, je veux pas.
Je croyais qu'il était commercial, mais.
Les PowerPoint, machin et tout, mais quand il parle de donner des points par rapport à une frappe hors de la surface, mais où est-ce qu'on va? Enfin, le mec, mais waouh, c'est l'Olympique de Marseille.
Je croyais qu'il était commercial, cet homme, je savais pas qu'il était président.
Voilà, après, mais... je pense aussi que contre Villas-Boas, d'accord, il a peut-être raison, Ludo, quand il dit qu'il a pas à dévoiler. Et c'est vrai que, même au Portugal, c'est pas trop la tendance de dire les coulisses un peu de ce qui, par rapport au transfert à l'argent. Ça, c'est vrai.
Mais c'est pas lui de le dire. Mais qu'on lui dise peut-être.
Qu'on dise peut-être.
Il répond à une question là, pour le coup.
Il a eu un Payet à 30 millions d'euros. Il a eu un Strootman à 30 et quelques millions d'euros.
22.
Payet, mais comment on achète un mec Payet en fin de carrière pour le faire revenir avec cet argent et ce salaire, mais avec autant de talent qu'il a, tu vois.
C'est pas vraiment le sujet, William. Le sujet, moi, je comprends ton avis. En plus, t'es supporter de Porto. Il t'a laissé des bons souvenirs. Et en plus, il dit que son rêve, c'est de venir présider ton club. Oui, très bien. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que l'Olympique de Marseille mérite un entraîneur qui a la passion de son métier et qui est à la hauteur de la passion de la vie.
Chacun son tour. Vas-y, William.
Par rapport à son objectif de carrière qu'il parle, il dit pas que, tu sais, si ça se trouve, il va peut-être, enfin, si ça marche, il va peut-être rester 2, 3, peut-être 4 ans à l'OM, hein, tu sais pas.
J'espère pas.
J'espère pas.
Les gars, on fait un point dans 5 ans. Si vous voulez faire 5 ans avec Marseille, à faire 2 participations avec des champions.
Mais inconsciemment, t'as toujours cette. Ce rêve de finir là où tout a commencé, tu vois, ou dans ton club de cœur. Moi, j'ai toujours rêvé de, malgré le fait que je sois passé à Lille, j'ai beaucoup aimé jouer à Bordeaux.
Oui, Ludo,
moi,
j'aurais rêvé peut-être que ça peut être une erreur de communication d'annoncer ça alors que t'es là depuis 4 mois.
Ben, surtout
à Marseille.
Non, mais Jonathan louait.
Moi, je fais juste le passage.
Jonathan louait sa franchise au début en disant que c'était.
Oui,
voilà, il y a plus de langue de Blois et ça fait plaisir d'entendre.
Mais c'est sûr, des vérités. C'est pas ce que j'ai dit. Je défends ce que j'ai dit. J'ai dit, tu passes de l'horreur, ton ami Rudy Garcia, à quelque chose qui est une situation à peu près normale, qui est Villas-Boas.
J'adore la mesure des mots à chaque fois. L'horreur,
l'enfer. C'est un enfer, Rudy Garcia. Il faut le dire. C'est un enfer.
Ok. William, un mot ajouté, parce que le standard, franchement, il explose. Là, il y a beaucoup d'appels. On va prendre d'autres appels. Vas-y.
Après, t'avoues, regarde quand même que l'OM, enfin, déjà, l'équipe, elle n'a pas été hyper renforcée. Bon, à part Benedetto. Mais t'as vu tous les blessés qu'il y a, t'as Thauvin. Enfin, là, t'avais Alvaro. Enfin, Alvaro, il
est absent. Il y a des choix tactiques qui ont ni queue ni tête. Non, mais il peut pas dire ça. Il y a des choix tactiques qui ont ni queue ni tête.
Jonathan.
Payet sur un côté, c'est ni fait ni à faire.
C'était hier ton anniversaire, d'accord? C'est pas aujourd'hui. William, fini.
Non, enfin, voilà. Enfin, déjà, quand on enlève Alvaro, qui avait ramené déjà quelque chose. Bon, heureusement qu'il y a Mandanda. Voilà, enfin, et Thauvin, quand Thauvin reviendra, bon, ça sera déjà peut-être autre chose.
Ok, Olivier.
Au milieu, t'as pas un vrai gratteur de ballon au milieu, quoi. Ça, c'est vrai que.
Merci William.
Merci William.
On a des bons éditeurs ce soir, hein. Pertinent, calme.
Ouais.
À l'image de Jonathan Macardy.
Mais totalement déconnecté du contexte marseillais, malheureusement.
Sylvain, supporter de l'OM, est avec nous. Salut Sylvain.
Bonsoir messieurs.
Alors, salut Sylvain. Salut Sylvain.
On va monter le son parce que t'as l'air extrêmement loin. Vas-y Sylvain.
Pourtant, vous m'entendez bien ?
Ouais, t'entends là, ça y est, vas-y.
Ouais, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jonathan parce que je suis pas forcément d'accord sur André Villas-Boas. Je le trouve très sévère. C'est vrai que il entraîne l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de passion. Voilà, même si ça fait mal de le dire, je pense qu'il faut aussi reconnaître la place de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un club qui ne peut pas prétendre actuellement au titre de champion de France. C'est un club qui ne gagne rien depuis une dizaine d'années. Il arrive, il a un discours franc, peut-être trop franc, en disant il n'y a pas d'argent.
Ça ne me dérange pas, Sylvain.
En disant on va essayer de faire quelque chose. Alors, un point aussi, il ne l'a pas dit clairement, c'est mon objectif, mais par contre, il a dit plusieurs fois dans les conférences de presse, la direction m'a confié la mission d'être en Ligue des Champions. Donc ça, il l'a dit, il l'a annoncé. Donc effectivement, il ne le revendique pas ouvertement, mais il dit c'est l'objectif du club. Et maintenant, moi, je trouve que c'est plutôt honnête de sa part de dire qu'il rêve de Porto. Alors effectivement, c'est en tant que président, donc c'est même pas la même fonction. Mais on sait très bien que de toute façon, il est de passage à Marseille. C'est à Marseille, c'est il y a les supporters qui restent, il y a la passion qui reste, mais les joueurs s'en vont, les entraîneurs s'en vont aussi. Donc, il est peut-être trop honnête, mais je préfère quelqu'un d'honnête et quelqu'un de professionnel parce qu'il dégage quand même beaucoup de professionnalisme, ce mec. Alors effectivement, il n'a pas forcément eu une carrière d'entraîneur exceptionnelle, il n'a pas forcément un palmarès énorme. Mais je trouve qu'il apporte une certaine sérénité au club. Et je trouve que ça fait du bien dans ces temps difficiles où, face au grand Paris Saint-Germain, Marseille est réduit à faire.
Le faire valoir.
À faire bonne figure, faire valoir.
Non, mais alors, Sylvain, j'ai posé une question. Tu es supporter de l'OM.
Ouais.
Toi, avec le respect que tu as donc pour l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères un mec qui est de passage, qui est froid, pro, qui faire le travail.
Il est pas froid, Villas-Boas.
Mais qui vient sans réel. Non, mais laisse-moi venir. Je vous posais la question. Sans réelle connexion émotionnelle avec le club, ou est-ce que tu préfères un mec comme Marcelo Bielsa qui vient et qui se fond totalement dans la ville, ou alors un Eric Guéret qui a la passion de ce club et que la passion de l'Olympique de Marseille transpire à travers chacune de ses déclarations. Qu'est-ce que tu préfères? J'ai posé la question pas à Ludo mais à Sylvain.
Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il est pas en connexion avec le microcosme?
Sylvain,
ça se voit.
On va demander à Sylvain.
Et Marcelo Bielsa, attends juste Sylvain. Marcelo Bielsa, tout fan de l'OM qu'il était, il est quand même parti au bout de la première journée.
Mais pas à cause de l'avocat russe de Manuel, ne compare pas.
Attends, si t'es si attaché que ça, tu mets ton ego de côté et tu pouvais trouver peut-être un arrangement si t'étais si attaché au club que ça.
Mais rien à voir. Arrête aussi.
T'en sais rien du tout si Villas-Boas, il est connecté au
micro. Tu sais qui c'est Igor Levin?
Oui, je sais qui c'est Igor Levin.
Alors, tu sais quel rôle il a joué dans
Mais si on va pas faire des choses, je sais. Alors, la première journée. Sylvain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Alors, pour répondre à la question de Nathan, alors moi j'ai adoré la période Guéret, parce que vraiment, ce mec, il respirait vraiment. T'as envie de l'aimer. C'est le mec, il était à fond derrière le club, on savait ça. Bien ça, je suis partagé, parce que j'ai vibré. Oui. C'est une année où finalement on gagne rien, mais j'ai vibré comme jamais. T'allais au stade, t'avais le sourire, il se passait tout le temps quelque chose, etc. Mais par contre, je suis pas d'accord. Il a la passion du foot, mais je pense qu'il avait pas forcément la passion de l'OM. Parce que c'est vrai qu'il est un peu parti comme un voleur, je n'ai pas encore d'accord, même s'il y a eu des petits coups dans le dos. Mais je pense qu'il a plus la passion du foot, l'amour du foot, que l'amour de Marseille. Je pense que Guéret.
Et par contre, je suis d'accord avec toi, Eric Guéret, là, je te rejoins, Jonathan. Sur Guéret, je te rejoins. Sur Bielsa, un peu moins.
Mais Villas-Boas, il le montre peut-être moins. Je trouve pas qu'il soit froid. C'est quelqu'un, il parle tactique, il a le sourire tout le temps. Et tu sens qu'il a envie de faire quelque chose avec Marseille.
Je suis d'accord.
Au lieu de, comme tous ces entraîneurs qui vont te vendre du rêve et que derrière tu vas te faire plier 3-0 par Paris ou tu vas perdre 3-0 à domicile contre Lyon, etc., il te vend pas du rêve. Il te dit on va bosser. Et moi, je vous promets rien, mais moi, je vais bosser, je vais apporter tout mon professionnalisme, je vais essayer de faire grandir les joueurs, je vais essayer de travailler avec les jeunes parce que il n'y a pas de moyens dans le club. Et je préfère un discours comme ça et que le mec se dépouille chaque jour à entraînement plutôt qu'un mec qui va me vendre du rêve en me disant ah ouais, mon objectif c'est de taper Paris, c'est le projet Champions Project, etc. Tu vois,
et puis vaut mieux être surpris que déçu.
Ouais, exactement. Mais... ouais, j'entends ce que tu dis, Sylvain, effectivement.
Moi, c'est bien, c'est très bien ce qu'il dit, Sylvain. Il a raison. Mais quand tu entraînes un club comme Marseille, tu dois avoir la passion de ce club-là et
passion,
savoir où tu
mais
entraînes.
Mais je trouve que cette passion, elle est redescendue parce qu'il n'y a plus. Le championnat, il est un peu tué, tu vois ce que je veux dire. C'est, alors, il y a une rivalité maintenant, on va dire, avec Lyon, avec des équipes comme ça, pour la deuxième place. Donc, je trouve que cette passion est retombée parce qu'avant, il y avait un vrai.
Il a raison, Sylvain.
Il fallait battre Paris.
Marcelo Bielsa, c'est vrai que le PSG a un peu climatisé la Ligue 1.
Et Marcelo Bielsa n'avait pas ramené la passion. Il y avait bien le grand PSG.
Il
n'y
a pas de souci. On a vibré pendant une année. Mais au final, on a vibré pendant une année. Mais à la fin de l'année.
Non, de jeu,
pas que de jeu, Ludo. Des à côté, de son comportement, de la manière dont il s'exprimait, de son attitude, du fait.
Oui, mais tout le monde n'est pas Marcelo Bielsa. Là, tu touches à quelque chose d'exceptionnel. Alors, mais Eric ce qui s'est passé à Marseille.
Eric Guéret aussi.
Il a peut-être un autre caractère, il est plus introverti, il est.
Bah, ça va pas avec Marseille, alors.
Et d'ailleurs, Marcelo Bielsa, c'est pas un de ses mentors. Il a pas cité Marcelo Bielsa dans les entraîneurs qui le respectaient.
Si, bien sûr.
À demi-mot.
Tout le monde respecte Marcelo Bielsa, de toute manière.
Oui. Voilà, merci Sylvain d'avoir appelé au 32-16.
Pour conclure, mais c'est vraiment là-dessus. Moi je mets Guéret au-dessus. Il n'y a aucun souci.
Mais moi aussi. T'as totalement raison.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé au 32-16. Franchement, auditeur de qualité.
Ouais.
Ce soir, auditeur de qualité. Et merci à Adrien, le pauvre standard, là, qui prend les appels, qui filtre et qui est sous l'eau grâce aux supporters marseillais qui ont appelé ce soir. Messieurs, cette information, si vous êtes traîné sur le compte Twitter de l'Olympique de Marseille, une vidéo où on voit Alvaro González dans le couloir avec des centre Belle Dreyfus avec des béquilles, l'homme de la vidéo à Marseille lui demande « Tu reviens quand ?» Il répond « Dans un mois.
Oh là là. »
C'est plus long que prévu du coup donc pour Alvaro González. Ça veut dire qu'il manquera PSG Marseille et qui devrait revenir a priori au moins pour Marseille-Lyon le 9 novembre prochain.
Allez, je me mouille.
Mauvaise nouvelle.
Je me mouille. Il faut absolument que la charnière qui soit Manus soit Camara Perrin. Pas Camara Tchaletatsar, Camara Perrin.
Lucas Perrin
ou
pas Camara.
Je te dis pas Perrin, c'est un foudre de guerre, mais Tchaletatsar, qui a un très beau potentiel et qui avait été très bon, notamment quand la saison avant qu'il vienne à l'OM, j'ai l'impression que c'est compliqué pour lui l'adaptation.
Le calendrier de Marseille, je vous le rappelle, très compliqué hein, après la trêve internationale. Marseille-Strasbourg le 20 octobre prochain, PSG-Marseille,
oh là là.
Monaco-Marseille,
oh là là.
Marseille-Lille,
oh là là.
Marseille-Lyon
oh là là.
Et Toulouse-Marseille.
Oh là, oh. Ça va.
Qui l'anticipe. Sauf que Toulouse a peut-être bénéficié de l'influx d'un nouvel entraîneur. C'est sûr, en tout cas, il y aura un nouvel entraîneur. Qui y sera-t-il ? On parle sérieusement d'Antoine Camboiré pour succéder à Alain Casanova. Camboiré, bonne ou vieille recette en Ligue 1 ? Faut-il être plus créatif ? C'est le débat qu'on va avoir ensemble, Ludo.
On en parle dans un instant.
Justement, tu as un avis tranché là-dessus aussi. L'after revient, on est ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan Macardy en grande forme, avec Ludovic Obraniak, toujours aussi flegmatique. Le calme, 2-3 banderies, il recale le débat, comme sur le terrain. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec ce soir Ludovic Obraniak, avec ce soir un Jonathan Macardy extrêmement en forme, lui qui a eu 33 ans hier et qui est toujours aussi dingo. Sur l'Olympique de Marseille, si je retiens bien finalement. Attends. À l'OM, du bizarre état, t'en veux plus.
Ouais.
Jacques Henriot, t'en veux plus.
Ouais.
Lui, André Villas-Boas, tu commences à plus en vouloir.
Je le garde encore.
Ah, mais dis donc, c'est pas
mais je lui mets un petit PC, je lui dis regarde ta communication. T'es à l'OM, Coco.
Et c'est quoi Courte qui vient pour faire d'immobilier.
J'en veux plus.
J'en veux plus. Donc tu Payet, t'en veux plus.
J'ai jamais dit ça, Dimitri Payet.
Tu le gardes,
j'en veux.
Toi, tu fais Sakai et après, tu mets des joueurs.
Mais non, je veux Payet. Les joueurs, je les aime bien, les joueurs qu'on a. C'est juste qu'on en a pas assez.
Et Villas-Boas, c'est comme les nanas de Jo, tu sais, elles ont pas le droit de mettre les mains sur les elles ont pas le droit de mettre les mains sur les portes.
Ah oui, non, mais là, c'est privé.
Le
côté obsessionnel de
c'est propre chez moi, c'est tout.
Voilà, messieurs, voilà pour l'Olympique de Marseille. Parlons maintenant du Toulouse Football Club. On le disait il y a 3 jours, on a appris qu'il y avait une séparation d'un commun accord. On l'a dit cette semaine. C'est comme au collège, quand tu te fais quitter par ta copine.
Ça t'est beaucoup arrivé, moi, je sais pas.
C'est un commun accord. Ou l'inverse.
Jamais arrivé.
Ludo, t'es déjà fait larguer ou pas?
Oui.
Bon, ça m'est déjà arrivé au collège.
Oui.
Voilà,
oui.
C'est ça que j'aime chez Ludo, tu vois. Il n'y a pas d'orgueil mal placé. Il est honnête.
Vous deux, oui.
Voilà, donc Toulouse, c'est terminé pour Alain Casanova. Et on parle avec insistance de l'arrivée d'Antoine Kombouaré, homme expérimenté, entraîneur expérimenté du PSG, de Guingamp notamment, de Lens également.
Quelle réussite à Guingamp.
Et qui devrait arriver dans les prochaines heures au Toulouse Football Club. Qu'est-ce que tu en penses, Ludo, le choix de Kombouaré à Toulouse?
Écoute, on a tendance à dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures sauces. Mais force est de constater qu'Antoine Kombouaré, ça fait deux aventures maintenant assez contrastées dans sa progression de carrière. Je sais pas, moi, enfin, avec tout le respect que j'ai pour Antoine Kombouaré, parce que c'est un bon entraîneur, mais si tu vires Casanova pour prendre Kombouaré, autant garder Casanova. Tu vois, le TFC, ils ont besoin d'un vrai électrochoc là. Là, il faut, tu sais, comme à l'hôpital, là, il faut mettre sur 250, il faut mettre sur 250, là, puis il faut envoyer un coup d'électrochoc. Antoine Kombouaré, comme Jonathan a l'habitude de dire, bah, tu vas penser les plaies, tu vas mettre 2-3 rustines à droite à gauche, mais ça va pas changer fondamentalement grand chose, j'ai l'impression, dans ce club-là. Et tu parlais de feignantise tout à l'heure, je trouve qu'Olivier Sadran, c'est une vraie feignantise que
une frilosité.
Ouais, il y a d'autres choses à faire.
C'est vrai que tu parlais de Kombouaré et son passage à Guingamp où il allait plus jouer au golf qu'entraîner son équipe.
Ouais, non, ça c'est aussi, bon, allez, passons. Je suis pas sûr que ça soit vrai. Après, on connaît sa passion pour le golf, mais
on connaît sa passion pour le foot. Parce que du coup, c'est un homme extrêmement passionné, mais bien sûr, par le foot.
Bien sûr. Mais je crois pas que ça soit la solution pour le TFC. Le TFC, il faut réveiller tout le monde là. Tout le monde a besoin d'un grand coup de pied aux fesses.
Tu penses t'as un profil en tête, parce que peut-être c'est pas simple.
Peut-être un jeune entraîneur, peut-être un entraîneur étranger, peut-être, je sais pas. Mais tenter quelque chose. Je sais pas qui a sur le marché en ce moment, mais il faut qu'Olivier Sadran, à un moment donné, il ait un peu d'imagination.
Oui, Ludo,
de tenter quelque chose.
Il aurait fallu le faire à l'intersaison. Pour lui laisser le temps de travailler. Là, t'es quand même déjà dans une situation d'urgence. Tu prends un jeune entraîneur à la manière de ce qu'Amiens a fait avec Elfner. Ouais. Tu le parachutes maintenant dans une situation où t'es un peu obligé de gagner à cause des résultats précédents. Je pense pas que ce soit le plus productif parce que tu vas griller un très bon entraîneur et tu vas griller ton club.
Je pense que ça peut pas être pire.
Est-ce qu'à l'instant T, là, Kombouaré, il a
le profil. Il y a pas urgence, hein. Il y a eu que 9 journées pour l'instant.
Mais ça fait 3 ans que.
Est-ce qu'à l'instant T, là.
Avec la relégation.
À l'instant T, c'est la solution pour se maintenir, pour assurer le maintien parce que Toulouse doit rester en Ligue 1. Mais après, est-ce que Kombouaré, tu le prends pour faire un projet avec lui? Non. Certainement pas, surtout pas. Et là, c'est là où je rejoins Ludo.
C'est opération avec, commando avec, à avec 29 Dijon, janvier de la fin.
Et avec Dijon, t'es passé.
C'est ça, on est déjà un petit peu là quand
avec
tu vois
Dijon,
un peu le classement
avec Dijon,
et les équipes
avec
des autres
Dijon, t'es passé ric-rac, hein, quand même. Oui, alors que fait. Pareil, hein, c'était censé être l'opération commando et
totalement d'accord avec toi là-dessus.
Excuse-moi, Jonathan,
mais c'est pas le timing.
On le dit. Mais je crois que ces mecs, ils en ont marre de l'opération commando, de machin. Je crois que ces mecs-là, ils ont besoin d'un peu d'autre. Ils ont besoin d'autre chose.
D'un
coach un peu plus rafraîchissant, un peu plus ambitieux. Il faut réveiller ces mecs-là. Ces mecs-là sont endormis depuis trop longtemps.
Prendre qui?
Je sais pas. Mais trouve une idée. Je sais pas. Je suis pas président. Si le jour où je serai président du TFC, je trouverai des idées. Et là, il y a assez d'entraîneurs sur le marché. Il y a assez de gens en activité pour pouvoir trouver une idée qui sorte un peu des sentiers battus, tu vois.
Mais après, les gars, le vrai débat, la vraie question, c'est de se demander si est-ce que c'est un plus réel, une plus-value réelle, de remplacer Alain Casanova par Antoine Kombouaré.
Non, je pense pas.
Voilà, ça sert à rien.
Je pense pas.
On est d'accord.
C'est Ludo, au début de son avis. Mickaël, supporter du TFC au 32-16. Salut Mickaël et bienvenue dans l'After.
Ouais, salut, bonsoir.
Salut Mickaël.
Merci d'avoir appelé. Bon, précision, c'est pas encore fait comme boire.
Il est sous respiration artificielle, Mickaël.
Non, pas sous respirateur, non, pas encore.
Mickaël, est-ce que pour toi, Antoine Kombouaré, coach du TFC, c'est une bonne idée?
Ben, écoutez, en tout cas, c'est pas une mauvaise. La meilleure idée qu'on a eue, c'est de sortir Casanova parce que il était dans une routine. Là, je vous écoutais un peu parler dans le retour, là. Ce qu'il faut savoir aussi au TFC, c'est que, mine de rien, vous disiez que les joueurs étaient lassés, tout le maintien, tout ça. Mais, c'est un peu faux parce que 90% des joueurs du TFC, du 11 type, c'est du nouveau. Koulouris,
c'est du nouveau. Ils sont plombés par l'ambiance générale qui pèse depuis trop longtemps dans ce club-là.
C'est possible. Ouais. Hein, mais à Toulouse, il fait beau tous les jours. Forcément, t'as vite fait de t'endormir. Ça, c'est sûr.
Non, mais je pense que le peu d'ossature que t'as gardé. Ça se communique, hein. Tu vois, Gradel, il porte son spin un peu quand même. Tu vois,
il est parti.
Tu vois, donc, Je suis pas sûr. Alors il est irréprochable. Il est irréprochable. Mais je suis pas.
Mobilier aussi. Ouais. Plus souvent, mais tous les joueurs qui ont fait la CAN cet été, c'était un peu nouveau. Je trouve qu'ils sont un peu cramés. Et Gradel, il y a un peu l'exemple. C'est-à-dire que il a un peu de mal. On a Sangaré au milieu aussi, qui a joué beaucoup. On a Silla aussi. Bon, Silla était très mauvais de base. Les deux latéraux au TPC sont très très mauvais.
Depuis des années, hein, c'est un problème. Hein, ce poste
depuis des années, si là il a fait l'année dernière une saison où il était physiquement en forme, du coup il a caché un peu la misère, mais ça reste de très. Il y a Amiens qui est très fort, mais qui joue dans l'axe parce qu'on n'a pas de défenseur central, du coup on a dû mettre Morera qui est à niveau Ligue 2. Mais après l'attaque du TPC, attention, comme on a rien à envier à 90% des clubs de Ligue 1. On a trois attaquants de pointe avec Sanogo, Aaron Eyaiseka, Koulouris qui a joué ce soir, qui a pas été mauvais avec la Grèce. Sur les côtés, on a Dosevi, donc on a Saïd aussi qui peut jouer sur les côtés. De l'autre côté, on a Gradel. Au milieu de terrain, on a Sangaré, Makengo, prêté de Nice, qui est pas mauvais. C'est contradictoire un petit peu le début de saison du TPC.
Mais qu'est-ce qui se passe, Mickaël, alors? C'est quoi les mots?
Bon effectif.
C'est quoi les mots?
Casanova, je crois, disait Mickaël.
L'entraîneur.
Tu penses que ça vient essentiellement de...
C'était une bêtise de l'avoir fait revenu. Il a fait revenir.
Oui, déjà.
Là, c'est
déjà.
Une aubaine de le sortir parce que finalement, on a 9 points. Mais non, pas 9 points, je ne sais pas exactement combien on a de points. On est dans les derniers. Mais on n'a pas moins de points que ceux qui sont devant nous. C'est vite fait, quoi. On est placé là au classement, mais l'écart, il est faible. Donc, sortir pas un nouveau 9 journées.
Tu as 9 points en 9 journées. Voilà,
Mickaël, tu vas dans mon sens. Hein. Je trouve que cet effectif, il est loin d'être, d'être mauvais. Il a juste besoin d'être. Je sais pas. Il y a besoin tu sens qu'il y a besoin qu'il se passe quelque chose.
De mettre
un électrochoc. Il manque quelque chose.
Alors après, pour le coup, excuse-moi, Mickaël, Kombouaré a cette qualité qu'avait également Duprat. Ce sont des entraîneurs électrochocs.
Ouais.
Sur des hommes qui secouent un vestiaire. Alors après, on n'est qu'à la 10e journée qui va venir. Problème. Tu pars sur 29 journées d'électrochoc. En général, ça tient pas aussi longtemps que ça, un électrochoc.
Ouais, puis électrochoc. Il faut de les idées. À jouer à 5 derrière. Et puis,
je sais pas si
Kamboré
joue à
5. Non, il joue pas.
Mais bon,
il va renforcer ton
c'est une image, quoi. C'est une image.
Merci, Mickaël.
Entre guillemets, on a bien. Et je peux faire une petite dédicace.
Vas-y.
Là, vite fait.
Vas-y.
J'ai une petite dédicace à Fifi, là, avec moi, là. Et là.
Mais Mickaël, vous avez pas d'envie, excepté Antoine Kamboaré, je sais pas, tu discutes pas avec d'autres, avec d'autres
groupes. Moi, je voulais Hans.
C'est le bon moment de
faire un pari, même si, voilà, Hans, même s'il a l'habitude de faire des allers-retours en Ligue 2, au moins, tu te régales un peu au stade. Au stade, c'est ce qui manque.
Mickaël, vous avez loupé le coche. Parce que
c'était Pélissier.
C'était Pélissier.
Ouais, bon.
Il reviendra plus tard. Allez, il reviendra plus tard.
Petit jeu de mots, loupé le coche. Bon, allez, je souhaite une bonne soirée.
Merci, Mickaël. Merci, Mickaël, d'avoir appelé au 32-16. Excellente soirée à toi, messieurs. Avant d'accueillir notre drôle de dame, Simone Rovera et Fred Hermel pour évoquer le match nul de l'Espagne aujourd'hui en Norvège et la qualification historique de l'Italie pour un euro.
J'exagère un peu aussi pour Jean-Baptiste. Il va bosser, c'est bien.
Simonet. Tiens, une info qui fait plaisir. Il y aura peut-être bientôt une rue Emiliano Sala à Nantes.
Très bien.
Proposition d'un élu d'Europe Écologie Les Verts lors du dernier conseil municipal de la ville de Nantes, qui sera sûrement soutenu par tous les supporters du FC Nantes, hein, qui, à chaque 9e minute de jeu à la Beaujoire, scande le nom de Emiliano Sala. Et puis, tiens, Ludo, on en parlait tout à l'heure, Luis Fernandez veut redevenir entraîneur. Il voit justement que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures confitures, qu'il y a un avenir quand tu as plus de 100 ans pour entraîner. Il l'a dit à nos confrères d'Europe 1, il rêve de revenir en Liga, il a une digue, il a une touche en Liga. Un bon club espagnol qui n'est pas le Real ou le Barça, réponse dans une dizaine de jours.
Info ou un tox.
Communication ou réalité. Voilà, on sera fixé dans 10 jours, on fera le point. On revient dans un instant, Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak, la suite de l'After jusqu'à minuit. L'Italie et l'Espagne au programme, notamment, à tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan McCarty, l'After, on est ensemble jusqu'à minuit. Encore un petit quart d'heure avant de vous dire au revoir et à demain. Mais il y a encore un beau programme à dérouler, notamment les qualifications de l'Euro 2020. Dans un instant, l'Italie qualifiée pour l'Euro, deuxième qualifiée après la Belgique. Mais d'abord, Fred Hermel est avec nous. Salut Fredo.
Hola chicos.
Salut Fredo.
Salut les amis.
La date approche pour ton livre, je crois, non? Ça y est, c'est sorti?
Oui.
Non, c'est quand?
Non,
non. Voilà. Ah, Zidane,
c'est
par
savoir, Frédéric. C'est savoir est-ce qu'on l'aura dans nos boîtes aux lettres sur tout ça.
Moi, je, alors, je sais que certains l'ont reçu déjà, dédicacé. Moi,
non, rien. Comme c'est Fred, voilà. Comme c'est Fred, j'irai l'acheter. J'irai l'acheter. J'irai l'acheter pour
je
que ça tombe.
Je dis rien pour ne fâcher personne.
Ça tombe dans ta pocket.
Mais
j'ai bien compris, Fredo, t'inquiète pas.
Non, mais t'as raison, moi, j'irai
l'acheter. Tu sais, les envois, ça prend un petit peu de temps. Hein.
Ok, Fred. L'Espagne attendra pour sa qualification. L'Espagne est tenue en échec en Norvège. C'était un mauvais match, un peu comme celui d'hier de l'équipe de France, sauf que là, il y a eu match nul. Un partout dans ce duel entre l'Espagne et la Norvège. C'était à Oslo, hein, je précise. Rapidement, Saúl Ñíguez pour l'Espagne, égalisation de King à la 93e minute.
Demi-volée, voilà, et l'Espagne se dirigeait vers la qualif, et vers une victoire 1-0 poussive et vers la qualif, mais voilà, il y a eu un pénalty commis par Kepa dans le temps additionnel, c'était à la 92e minute. Bon, c'était pas beau. Franchement, l'Espagne, il y a eu des joueurs qui ont été franchement mauvais, notamment Rodrigo Moreno.
Ah oui.
Oyarzabal, Ceballos n'a pas été génial.
Bernat.
Albiol, il finit bien le match, mais il fait une première heure catastrophique.
Ah, il est encore. Alors, c'est vrai.
Non, mais c'est pas qu'il est encore, c'est qu'il est revenu.
Ouais.
Il était à Naples, il est revenu à Villarreal. En fait, on a un coach en Espagne qui s'appelle Robert Moreno qui avait fait sept changements dans sa liste par rapport à la précédente. Parce qu'il fait des tests, il fait des essais pour l'Euro et voilà. Mais faire des essais avec un joueur comme Albiol qui a 34 ans, c'est un petit peu risqué quand même.
Bernat, tu disais, tu l'as trouvé comment?
Oui, il n'a pas été mal.
Ouais.
Non, ouais, il était titulaire, il n'a pas été mal. Ouais, il était plutôt bien. Ramos a fait une petite erreur. Il a été bien dans le combat, mais il a fait une erreur qui a fait coûter un but. Ramos, qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du football espagnol, de la sélection espagnole avec 168 sélections, et qui a confirmé après le match qu'il avait envie de jouer les Jeux Olympiques.
Donc il va candidater pour les Jeux Olympiques, quoi. Il peut le faire. On rappelle, t'as le droit à 3 joueurs de plus de 23 ans dans l'effectif olympique.
C'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose qui peut arriver.
Il a jamais joué les Jeux, Fred. Ramos. Il a jamais fait les Jeux.
Non. Et en fait, aucun joueur de l'histoire n'a gagné un mondial et les JO en football.
Ah ouais.
Peut-être que Mbappé. Tant qu'il a envie de devenir celui-là, quoi.
Neymar.
Ah oui, tout à fait. Ah, exactement. Mais c'est vrai que voilà, ce match, pour revenir au match globalement, c'était une mauvaise Espagne avec une. Pour parler un peu de l'adversaire, la Norvège qui on a vu Martin Odegaard qui a pas été mal, on sent qu'il a du ballon qui appartient toujours au Real mais qui est prêté pendant 2 ans à la Real Sociedad.
Il est bon d'ailleurs.
Oui.
En championnat.
Comment pardon?
Ça se passe comment en championnat pour lui?
Très bien. Ah, c'est l'un des meilleurs de la Liga depuis début de saison. Ah vraiment, c'est un joueur qui a un talent fou, qui quand il est arrivé au Real Madrid à 16 ans avait un énorme melon et qui avait beaucoup à mûrir. Il commence à le faire et c'est vrai que sur le terrain c'est pas mal. Et on le voyait, il est pas capitaine de cette équipe, mais voilà, il a rangé le public, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui va être évidemment le meilleur joueur norvégien et c'est beau de le voir jouer. Après, franchement, le match était. Il y avait quand même des erreurs techniques des deux côtés. C'était assez dur physiquement. Non, c'était pas un beau match de football. C'est sûrement le plus mauvais match de cette phase de qualification pour l'Espagne. Oui. Mais bon, l'Espagne en Suède mardi n'a besoin que d'un nul pour être sûr d'être déjà qualifié, alors qu'il restera encore 2 matchs, Fred, en plus 2 matchs à domicile.
Sergio Ramos, parlons-en quand même, parce que c'est un moment d'histoire du foot européen aussi. 168 sélections pour Sergio Ramos. Dis-moi, il est où au panthéon des footballeurs espagnols alors qu'il a pas terminé encore? Ramos, tu le mets dans un top 5? C'est une question, je te pose.
C'est une question.
Parce qu'il est quand même. Ligue des Champions. Combien de Ligue des Champions?
4
Ligue des
Champions. Pour toi, c'est devant Hierro?
Ah oui.
Oui, c'est devant Hierro.
Bah oui. Il a gagné un mondial, lui. Il a gagné 2 euros,
4 Ligue des Champions.
Hierro a rien gagné au niveau de la sélection espagnole.
De toute manière, c'est comme à chaque fois, on se rendra compte de la grandeur de Sergio Ramos après.
Parce qu'on
se rendra compte que c'est probablement. Allez, je vais peut-être me mouiller, mais le meilleur défenseur central de l'histoire du football.
Le meilleur.
En tout cas, le meilleur défenseur espagnol.
Il sera dans la conversation.
Ah oui, ça c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui,
c'est parce qu'on a du mal à juger maintenant. Là, faut attendre avec un peu de recul.
Mais je me souviens simplement 3 jours avant le match du Real au PSG Un joueur que je rencontre me dit il y a Paramos à Paris, on est inquiet. Ah, bah ouais, 3-0.
Et puis, il ne fait pas que défendre.
Mais non,
il est 4 fois. Il est meilleur buteur, je crois, des
Calif. 4 buts en face de Calif.
Le mec, il tire les pénalties.
C'est l'emprise qu'il a sur son équipe.
C'est ça.
Le caractère.
Mais c'est le mec qui, c'est le capitaine, c'est un vrai capitaine, quoi. Non, sur le terrain, patron, en dehors du terrain, dans le vestiaire. Et en plus, c'est un mec super sympa. Enfin, les gens
sont. Sur le terrain, c'est moins le cas, effectivement. Mais bon.
Attendez. Moi, je ne joue pas au foot. Moi, je parle des relations que j'ai eues avec lui, je ne joue pas au foot. Mais moi, ça me fait marrer les gens qui disent, Ramos, il est dur. Mais n'importe quel club au monde ou sélection,
il va avoir Ramos dans son équipe.
C'est pas un reproche. T'as raison, mais c'est la mise de ses qualités pour moi. Son vice, ça fait partie.
Mais il a tout, ce mec. Excellent défenseur. Il est buteur, ça, gros caractère, leader. Il a tout, ce mec.
Là, il est suspendu pour le match de la Suède mardi, parce qu'à un moment, il a défendu en dehors de la surface avec la main, mais avec le vice, quoi. Mais il a empêché le contre. Hein. Voilà.
Fred. Est-ce que t'es prêt à accueillir un homme qui fait son retour sur la grande scène internationale?
Moi, je pense que c'est quand même la grande information après toutes ces années d'absence. L'Espagne parfois fait de mauvaises phase finale, mais elle est là. Alors, grand ami,
on l'accueille. On l'accueille en musique. C'est le retour de Gigi. Gigi Simone arriva. Il arrive, il revient. Après quelques années de chômage international, revoilà l'Italie dans un Euro. Salut Simone.
Ciao, bonsoir.
Salut,
Simon. Ciao, bravo.
Pour ceux, ils sont de plus en plus nombreux.
Merci,
qui ont,
Fred.
Qui ont, il pleure à moitié, le mec. Pour ceux qui ont la chance d'avoir RMC Sport News, la chaîne, une photo.
Qui te met parfaitement en valeur, Simon.
Prise tout à l'heure en zone mixte, au Stadio Olimpico de Rome, avec un Simone.
La bouche grande ouverte.
T'aurais pu te procurer ce magnifique maillot, quand même.
Ouais.
Bah écoute,
maillot vert ce soir de la squadra.
Je voulais le demander, mais j'ai vu que tous les joueurs l'ont conservé avec beaucoup de plaisir. C'est plutôt pour, je pense, pour le résultat de la soirée et pour le significat qu'il a, que pour la beauté de ces matchs.
Bon, Simone, t'es avec Kuzma, t'étais au stade, Simone. On l'a tous vécu, comme disait Fred à l'instant, c'est l'info de la soirée. L'Italie va disputer l'Euro 2020, qui est un des pays hôtes, l'Italie, d'ailleurs, de l'Euro 2020. C'est important
l'Italie
de préciser.
L'Italie va jouer les trois premiers matchs à domicile, à Rome. Donc,
il fallait pas se louper.
Ça a été presque une test ce soir pour l'enthousiasme qu'on espère voir pour les trois premiers matchs. Une longue série de matchs dans cette compétition où l'Italie va aller très très loin.
Raconte-moi l'enthousiasme dans le stade autour. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement ou on vit ça comme quelque chose de normal finalement?
Non, il y a du soulagement. Je parlais beaucoup avec les supporters avant les matchs et ils disaient ça va être vraiment de reprendre les cours du temps, de reprendre un peu à marcher comme il faut. Et c'était un match vraiment compliqué à un certain moment parce que l'Italie n'a pas joué bien, elle a joué bien toute la qualification. Aujourd'hui c'était un peu difficile face à un adversaire qui défendait très bien, l'Italie ne trouvait pas la faille. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais cessé d'y croire d'une première minute jusqu'à la fin, c'est les publics, c'est les supporters italiens qui ont vraiment participé à cette victoire très importante. Et sur le terrain, j'ai beaucoup de plaisir à dire qu'il y a un joueur qui était meilleur.
C'est Marco Verratti.
Mais bien sûr. Extraordinaire, vraiment une prestation pour moi de très haut niveau. Si c'était un adversaire plus compliqué, on aurait pu parler d'un match presque parfait. Il a fait une erreur à 70 mètres du but. La Grèce fait un contre, ils ont une occasion, c'est vrai. Mais quand tu perds une ballon à 30 mètres du but adverse, t'as quand même quelques coéquipiers qui peuvent avoir le temps de récupérer s'il y a une occasion derrière. C'est pas une erreur qu'on perde les ballons dans ta surface.
Et puis quand tu prends autant de risques, tu peux te permettre de perdre une fois ou deux. Quand tu crées autant de décalage et
t'as le droit,
à un moment donné de perdre au moins un ballon.
Fred, te fait peur cette Italie? Te fait peur à ton Espagne cette Italie? Fred Hermel,
je ne peux pas parler avant la phase finale parce que l'Espagne a gagné 2 euros, a gagné un mondial. Enfin, les trois dernières phases finales ont été catastrophiques. De mondiaux ratés, un euro raté. Donc, moi, ce que fait l'Espagne en ce moment, sincèrement, ça veut rien dire par rapport à ce qu'elle aura en phase finale. Vraiment, je comprends l'émotion de Simonet, parce que ne pas aller au mondial, c'est quand même terrible pour lui. Mais c'est pas parce que l'Espagne va se qualifier que pour mon Espagne, qui est mon deuxième pays après la France, bien entendu, oui, elle va y aller, mais je sais pas ce qu'elle va donner. Parce qu'il y a eu tellement de déceptions dernièrement que, mais vu d'Espagne, pas mon avis à moi, parce que c'est pas ce qui compte, mais vu d'Espagne, bien entendu qu'une Italie, c'est toujours un rival dangereux en phase finale.
On rappelle que la dernière fois qu'ils sont affrontés en phase finale, c'était à l'Euro 2016 en huitième de finale. Ouais, bah victoire oui. De l'Italie, Simonet 2-0 face à l'Espagne. C'était au Stade de France d'ailleurs.
Sans rien dire d'ailleurs, il n'y avait rien à dire. Hein. C'était ouais. Implacable comme victoire.
Simonet, comment tu la sens cette équipe, là, l'évolution avant l'Euro et pour l'Euro justement? Est-ce qu'il y a une marge de progression encore importante?
Il y a une énorme marge de progression qui pour moi c'est l'avant-centre. Ce soir, malheureusement, on a revu le pire de Immobile, c'est-à-dire à l'avant-centre qui est en sélection. Il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, n'est jamais décisif, il ne crée pas des occasions et quand il y a, il les rate. Donc, pour moi, l'énorme amélioration, c'était trouver soit on met Belotti et il devient titulaire indiscutable, soit, et je sais que dans la tête et dans le cœur de Roberto Mancini, il y a un homme qui est le titulaire s'il arrive à faire une saison correcte, et c'est Mario Balotelli. Donc, c'est vrai qu'on arrive toujours au même joueur, l'attaquant que c'est l'espoir depuis 10 ans qu'il devienne un grand attaquant. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui manque à cette sélection, c'est un vrai numéro 9 qui puisse marquer des buts dans des moments décisifs. On ne l'a pas. Les seuls joueurs que je vois dans les scénarios italiens qui peut avoir ces numéros 9 en tant que titulaire, pour moi, c'est Mario Balotelli et on verra pendant la saison s'il arrive à faire ce qu'il doit faire pour revenir en sélection.
Vous voyez, nous, on se plaint avec Giroud. Balotelli, Balotelli.
Ce sera le gros débat des 6 prochains mois. Forcément, avec Balotelli, doit-il jouer l'Euro ou pas? Ça va dépendre de sa saison.
Il en est où, l'artiste, là?
Très court. Oh, c'est fini, là.
Bah, il a marqué un but face à Naples. Il a joué 3 matchs. Il doit reprendre vraiment la condition. On est loin d'une condition acceptable. J'ai parlé avec Marco Verratti en zone mixte, qui a parlé beaucoup à nos micros. On va l'entendre sûrement demain, dans les prochains jours, en français. Il est très, très content d'avoir participé à cette qualification.
Merci beaucoup, Simonet. Merci, Fred.
Salut, Fred.
Merci. Alors, encore un effort, Fred, pour toi et puis pour les Bleus aussi, lundi soir. Ciao Simonet, et bien bienvenue à l'Italie.
Ciao.
Excellente soirée à vous messieurs. C'est fini messieurs. Rendez-vous demain pour l'after avec le retour de Gilbert Bribois, de retour de vacances. Ludo, Aubragnac, merci.
Merci.
Jonathan Macardy.
Bon dimanche.
Merci. Bon dimanche à tous.
Merci et bravo à Christian Emily qui s'impose par chaos technique au 9e round à l'instant.
Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.
At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night, and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000 of spuds.
Potatoes?
Yeah, jackets, roasties, dolphin wars. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it
Mashback. Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.